Est-ce qu'une vie ça se raconte? En écrivant ces lignes, c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on peut raconter une vie et tous ceux qui la composent? La vie d'Ouria, c'est une histoire que l'on égrène, comme du sable au zénith, des merveilles, des pépites, sur cette terre que l'on hume comme on frôle l'essentiel. Terre d'eau rouge et brune, que la femme parfume, jusqu'à se cogner au ciel, dans le froid et la brume, dans le froid et la brume.
Alors moi, c'est Nordine Baraka.
Je m'appelle Abdel Baraka, donc on est la compagnie théâtrale Atelane, une compagnie de théâtre amateur, basée sur Ulu.
Et vous êtes originaire de la région ?
Oui, on est natifs de Montigny-en-Goële. On est des enfants de Schnorr, quoi, un habitué d'Achecoin. On est chez nous, ici, quoi.
Notre père était mineur de fond, il arrivait dans les années 30, 35. Donc, c'est, disons qu'on est des enfants issus, entre guillemets, de la deuxième génération, quoi. Donc, et nos parents sont, eux, de la première génération d'immigration. Mais bon, on essaye de ne pas aborder ce sujet-là de manière, je dirais, frontale. On essaye de passer par la poésie. Qu'on pense qui appartient aussi à notre écriture. Quoi.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la trame de la pièce ?
C'est l'histoire d'un homme qui, à un moment de sa vie, décide de planter un figuier dans son jardin. Mais pas un figuier qui pousse ici, des figues blanches. Il veut un figuier du jardin de son grand-père, de son village natal, Amsterdam. Donc, durant l'été, il va retourner là-bas avec sa femme, comme tous les ans. Hein, comme tous les ans, les émigrés font le voyage. Et il décide d'aller chercher un figuier, mais il se rend compte que son village est dépeuplé. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Et donc, il ramène ce figuier en France. Il plante dans son jardin, donc au pied des terris. Il habite, son jardin jouxte les terris. Et il se rend compte que ça ne poussera pas, ça ne poussera jamais. C'est un petit peu... à son image, il croit que c'est la malédiction, il croit qu'il a raté sa vie, qu'il a tout foutu en l'air. Donc sa femme, là-dessus, elle va faire le chemin inverse. Elle va voir son homme un petit peu ne jurer que par son figuier, ne passer son temps qu'avec son figuier. Elle va décider de prendre un peu les choses en main. Donc elle apprend à lire, elle apprend à écrire. Elle se débrouille et, comme ça jusqu'à ce qu'elle... qu'elle finit par enterrer son homme là-bas, au pied du figuier. Et puis, on voit cette femme, en fait, maghrébine, dont on ne parle jamais, finalement, ici en France, parce qu'elles sont toujours chez elles, ou soit sous l'influence de leur mari, soit... elles restent chez elles, quoi, parce qu'elles ont des enfants, parce que... Et là, on montre une femme qui veut aller plus loin dans sa vie ici, dans sa démarche de vivre en France. En fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, et ce dont elle est persuadée, c'est que sa patrie, en fait, son pays, c'est là où sont ses enfants. C'est là où grandiront ses enfants. Tandis que lui, il avait l'impression... Enfin, il était un petit peu perdu. C'est pour ça, la symbolique du figuier est là pour montrer ça, quoi. Il est déraciné, il veut se... remettre quelque part, mais on peut pas, tel quel, prendre un arbre qui a besoin d'un certain climat, qui a besoin d'une certaine manière de vivre, et puis le transposer. Il faut adapter, il faut s'habituer à la terre, il faut vivre dans cette terre. Donc cette femme, elle a compris ça. Lui, il n'a pas compris. Donc il finit ses jours comme ça. Il parle de malédiction, lui. Voilà.
TFM 99.9.
Rentre. Rentre, te va attraper froid, tu tousses.
Si je tousse, c'est que je suis pas mort. Bientôt, je vais mourir. Alors, il restera cet arbre que j'ai planté là. Pour qu'à chaque fois que l'un de mes enfants prend un fruit et le mange, c'est moi qui le perpétue.
Perpétue, t'as 12 gosses. Lequel qui perpétue en premier, hein? Et tu crois que tu vas en avoir assez sur ton mini figuier? T'achètes des pommes au marché, c'est mieux.
Je vois pas le rapport entre tes pommes et mes figues. Et la figue du péché originale alors, hein? Tu sais qu'il existe une sourate dans le Coran sur le figuier?
Sourate ou pas, moi je suis fatigué. Et ta sourate, elle dit pas que tu dois muser.
Tu comprends rien.
Je comprends tout. Si tu veux des figues, il y en a plein au champ, c'est bientôt Noël. Moi ce que je veux, c'est que tu me rentres du charbon. Que tu me nettoies la cave. T'as vu l'état de la cave? Même les souris, je les ai vues partir avec leurs valises tellement c'est sale.
J'ai mal au dos. Ah, pour t'occuper de ton arbre, t'as pas mal au dos. Moi, j'ai dit qu'il habite dans le genou, dans ta tête. Et toi, comme un... Tu obéis.
C'est comme ça. Je jure sur le Coran et sur la tête de chacun de mes enfants, mon figuier, ici, il va pousser.
Tu te prends pour un pharaon ? Descends de ta pyramide, va. Le dernier, là, ils sont bas, que t'es pas venu à la fête.
Y a personne qui peut comprendre.
Ce que je comprends, moi, c'est le regard des voisins qui se moquent de nous. Ils croient que tu es dehors parce que tu n'es pas bien chez toi. Ils parlent, tout le monde le sait. Jusqu'à Lille, ça se sait. Moi, ce que je veux, c'est tout, c'est comme ça.
Parce que tu crois que je suis chez moi ici ? Parce que tu crois que je me suis senti une seule fois chez moi ici ? Tu te trompes énormément. Chez moi, c'est là-bas.
On a écrit la pièce à deux, hein, moi et Abdel, avec l'aide importante, moi je tiens à le signaler, préciser de Jean-Maurice Boudel, qui nous met en scène sur ce spectacle, parce qu'il a beaucoup participé avec nous à la réflexion sur le sujet. Au départ, j'avoue qu'on a fait une première écriture où on était plutôt basé sur le point de vue de l'homme. Et puis petit à petit, avec les orientations aussi du metteur en scène, et qui nous a demandé de tenter une approche avec le point de vue de la femme, ça nous a ouvert vers d'autres pistes et d'autres trames, enfin, d'autres envies aussi d'écriture. Et de fil en aiguille, on s'est dit, on va faire un hommage aussi en même temps à toute cette génération de femmes qui sont nos mères, quoi. C'est vrai qu'on a un autre spectacle qui s'appelait Hajet Lek, qui partait aussi, c'est un peu quasiment dans le même esprit, je dirais, avec un point de vue plus de l'homme cette fois-ci. Et cette pièce-là, effectivement, elle a tourné, elle tourne encore pas mal dans la région et puis au-delà de nos frontières, puisqu'on a joué au Maroc, en Belgique. Fin...
Et quels autres thèmes étaient abordés dans vos pièces précédentes ?
L'idée, c'est de... Déjà, on ne fait pas du théâtre engagé ou du théâtre beurre, comme on a pu l'entendre et comme on l'entend de moins en moins, je dirais merci. On essaye de manière intuitive de raconter une histoire et on pense à travers notre écriture, à travers ce qu'on est sur un plateau, parce qu'on est quand même deux Arabes sur un plateau de théâtre, que les gens vont faire leur cheminement personnel de manière intuitive aussi et sans qu'on le dise. Donc on essaie de travailler ça avec finesse. Donc ça, c'est notre forme d'engagement à nous. Et quand on a des débats avec des jeunes dans des lycées ou autres, ce qu'on essaie de dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est de se rencontrer sur ce qu'on a d'identique, donc sur toutes les valeurs universelles qu'on peut avoir, plutôt que sur nos différences. C'est un peu l'esprit. Donc l'esprit qu'on veut aussi donner à nos spectacles, c'est de mettre en avant toutes les valeurs universelles. Hajet Lek, ça raconte l'histoire on a une scène à un moment où on raconte l'histoire du Koub Zizi, donc des choses, des traditions orientales, et on a eu des Bretons qui sont venus nous voir pour nous dire, c'est comme chez nous. Et ça, je pense que quand on a ce genre de retour, je pense que là, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, d'avoir un propos universel, ou le plus universel possible.
Et l'utilisation de la musique aussi, ça fait partie de... cette recherche de ce qu'on a en commun, non ?
Abdel joue de la musique, on essaie d'intégrer systématiquement maintenant des compositions musicales dans nos spectacles, et c'est vrai qu'à travers la musique, on peut aussi trouver les valeurs universelles qu'on a et qui font que, au-delà du fait qu'on soit noir, arabe, jaune ou autre, on aime la musique, on aime certaines valeurs qui sont universelles, quoi.
Au départ, on s'inspire fortement de ce qu'on est. En fait, c'est un peu tout bête. C'est en allant dans le jardin des beaux-parents, on s'est rendu compte qu'il avait un figuier dans son jardin. Puis quand on pose la question « Pourquoi tu as un figuier dans ton jardin ?»« J'ai un figuier dans mon jardin parce que c'est mes racines, puis j'ai envie d'avoir un figuier. » Et on s'est rendu compte après ça qu'il y avait beaucoup de gens issus d'immigration maghrébine, là, qu'ils avaient un figuier dans leur jardin. Alors on s'est dit, pourquoi pas commencer à écrire un truc là-dessus. Donc on est parti, comme l'a dit Nordine tout à l'heure, sur le point de vue de l'homme. On est parti d'un texte, un homme qui veut planter un figuier dans son jardin pour perpétuer ses racines en France. Enfin toute la symbolique liée autour du figuier. Puis on s'est vite buté à ça, quoi. Mais effectivement, au départ, ça part d'une idée de choses qu'on a vues, qu'on a constatées, qu'on a vérifiées dans notre famille, à travers nous aussi. C'est un petit peu de nous qu'on met dans cette histoire. Et ensuite, l'intérêt, c'était de construire un spectacle avec une dramaturgie, avec une continuité. Il y a un début, il y a quelque chose qui se passe. On voit cet homme qui est chez lui, tous un peu. Et il parle de partir en Algérie. Et puis lui, il a déjà en tête de prendre un figuier ici. Mais effectivement, on dramatise l'histoire parce qu'on a besoin de ça pour emmener le spectateur d'un point à un autre. Alors effectivement, c'est de la réalité, mais qui est complètement truquée à l'arrivée, quoi. Effectivement, on part d'une réalité qu'on a constatée, dont on s'est inspiré, de choses qu'on a entendues dire par notre mère, par notre père, par des voisins, on s'inspire de gens qu'on connaît aussi personnellement. Bon, on change les noms, bien sûr. Et puis bon, après, ces personnages-là, ils existent à part entière. Yamina, c'est Yamina de la pièce, elle n'existe plus. Pour nous, on ne fait plus le rapport avec la vraie Yamina. On s'en a inspiré à un moment. Puis après, elle a son discours, elle a ses mots, elle a ses mimiques, elle a ses... Donc effectivement, on part d'une réalité et on la truque un peu. Enfin, pas le truquer, c'est pas le bon mot, mais on romance un peu. On sert l'histoire qu'on veut raconter, quoi, ensuite. Voilà. Mais effectivement, c'est d'abord inspiré par ce qu'on est. Donc ça parle d'une femme issue d'immigration. Ma mère, elle est issue d'immigration. Ça parle d'un homme qui va mourir et qui est malade. Mon père, il est mort, il est malade. On parle d'une bonne femme qui n'aime pas les Juifs, mais on ne sait pas pourquoi. Elle insulte le monde. Enfin, voilà. On parle d'un autre homme qui s'appelle Monsieur Poire. Il a existé, Monsieur Poire. Il venait toujours, il avait des poires dans sa poche. Il avait toujours son casque, il n'enlevait jamais son casque. Il était solidaire de son casque. Donc ces gens-là, on les reprend, mais on les améliore. Enfin, on les fait servir notre histoire à nous, après. Voilà.
Est-ce que c'est plutôt un regard sur la première génération, plutôt que sur la vôtre ?
Non, je dirais que c'est notre regard à nous sur une immigration. Parce que nous on n'est pas immigrés, nous. Nous, on est français. Mes parents sont immigrés. Et nous, on a un regard sur cette immigration. C'est le regard-là qu'on porte sur l'immigration de nos parents, enfin, dont mon père, puisque ma mère, c'est presque de l'automatique. Mon père est arrivé, regroupement familial, arrivé en France. Non, c'est notre regard à nous, Français, issus de l'immigration, qui portons un regard sur une immigration, sur un phénomène de société, sur des lacunes aussi, de politique. Parce que l'immigration n'a jamais été bien menée en France. On a toujours été dans l'estime d'assimilation, pas d'intégration. Même aujourd'hui, on en paye un peu les conséquences aujourd'hui.
BFM 99.9.
L'histoire, c'est pas du tout ça. Les gens, ils viennent pas chercher ça. Enfin, ils viennent pas chercher. Quand ils vont venir voir le spectacle, c'est pas ça qu'ils vont voir. Ils vont voir l'histoire d'un homme qui arrive en France, qui travaille toute sa vie en France, qui tousse, qui est un peu malade. Ils voient une femme qui est un petit peu dominée par son homme, en fait, au départ. Puis on voit un petit peu cet homme devenir fou, et puis chercher un figuier, puis le ramener. Mais on voit une histoire de gens. On voit leurs émotions, on voit leur bon moment, leur... C'est ça qu'on voit. Après, les gens, ils prendront ce qu'ils veulent. L'aspiration, c'est une chose. Et après, le spectacle, ça en est une autre, quoi. Le spectacle, c'est d'abord, on raconte d'abord... Nous, on se met au service d'une histoire. Ça parle pas d'intégration, d'immigration. Ça parle de gens qui s'appellent Ouria, Yamina, M. Berweda. Il y a M. Givaudan, qui est docteur. Et ces gens-là, ils nous racontent quelque chose de la vie. Ils nous racontent quelque chose d'un idéal, il nous raconte quelque chose de simple, avec des mots simples, et nous on essaie de se mettre au service de ça. Quoi.
Si elle n'avait pas été immigrée, vas-y, dis-leur. Si elle n'avait pas été immigrée, elle aurait pu être enfant en Palestine.
Est-ce qu'une vie sainte se raconte en écrivant ces lignes ? C'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on peut raconter une vie et tous ceux qui la composent ? La vie d'Ouria, c'est une fable fort singulière. C'est un conte à tout, c'est pas de l'ordinaire. C'est simple comme la vie et la mort, comme un navire quittant son port, quittant le rouge de sa glaise pour la couleur du charbon. Terre que l'on modèle quand il pleut à chaudron. Est-ce qu'une vie ça se raconte? En écrivant ces lignes, c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on peut raconter une vie et tous ceux qui la composent? La vie d'Ouria, c'est une histoire que l'on égrène, comme du sable au zénith, des merveilles, des pépites, sur cette terre que l'on hume, comme on frôle l'essentiel. Terre d'eau rouge et brune, que la femme parfume, jusqu'à se cogner au ciel, dans le froid et la brume, dans le froid et la brume. Quand il flotte à chaudron, est-ce qu'il flotte à chaudron, des merveilles, des pépites, navire quittant son port, navire quittant son port, comme la vie et la mort, comme la vie et la mort, comme